Les Assises de l'immobilier de Metz 2024 sur Radio Immo.
Avec un sujet passionnant, le pouvoir d'achat des Français et l'accession à la propriété. On va en parler aujourd'hui avec Stéphane Fritz, qui est avec nous, président de Guy Hoquet Immobilier.
Bonjour,
merci d'avoir accepté notre invitation. Henri Buzy-Cazot, qui est avec nous aussi, président fondateur de IMSI. Merci.
On dit IMSI. C'est plus facile.
Voilà, c'est ça.
Olivier Mirguet, bonjour, journaliste à la Tribune est également avec nous. Et Jean-François Rinfret, vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole de Lorraine. Bienvenue, messieurs.
Bonjour.
Et si on commençait par cet observatoire, vous avez mis en place un observatoire justement sur l'immobilier. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous déchiffrer un petit peu ce que vous avez retenu?
Alors, l'observatoire, déjà expliqué ce que c'est. L'observatoire, il est sur les prix affichés, donc il récupère l'intégralité des sites, en ce compris PAP, sur les prix affichés. Et bien sûr, il est corrigé par nos transactions, parce qu'on fait 32 000 transactions au national. C'est corrigé par nos transactions, et donc ça donne quand même une tendance, vous savez ce que c'est. C'est une moyenne, c'est les pieds dans le four, la tête dans le frigo, donc ça donne une tendance, notamment par ville, par région, et c'est un peu ça sa force. Et sur France, aujourd'hui, l'observatoire de transactions donne un plus 2,8 en chiffres aujourd'hui.
Pour les prix,
mètres carrés, pour les prix mètres carrés. Et en loc, plus 6% sur les prix de location.
Donc, on constate donc qu'il y a une augmentation des prix. En moyenne sur toute la France, vous l'avez dit, il y a des disparités, hein. Parfois c'est en fonction des quartiers, on en parlait tout à l'heure. Un petit mot justement sur ce que vous constatez sur le terrain, Stéphane, par rapport aux besoins des Français, à la demande.
Alors, aujourd'hui, la demande des Français, ce qu'on retrouve sur le terrain, on a passé une année difficile. Fin 2023, on était pratiquement à moins 30. On a été à moins 17 dans le premier trimestre 2024. Mmh. Moins 1 sur le deuxième trimestre. Et aujourd'hui, on sent une reprise, les taux baissent. Donc, on sent une dynamique, en clair. On sent une dynamique, mais elle est somme toute légère. Les agences immobilières ont perdu leur trésorerie ou une bonne partie. Ceux qui en ont encore peuvent avoir des rebonds assez importants. Ceux qui n'en ont pas, ça se remet en place et assez doucement.
Mmh. Olivier Mirguet, vous êtes journaliste à la Tribune. Merci
Bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Petit état des lieux aujourd'hui du marché, vu d'un journaliste aujourd'hui qui traite cette actualité assez largement.
Donc dans le Grand Est, il y a de grandes disparités de richesses entre les différents territoires. Ça, on le sait. Il y a une richesse qui est concentrée sur la bande frontalière, qui va de la Belgique au Luxembourg, à l'Allemagne et à la frontière suisse du côté de Bâle. Sur ce secteur-là, il y a malgré tout des incertitudes au niveau de l'emploi. Il y a de grands employeurs qui menacent de mettre en place des plans sociaux. À Strasbourg, on a appris la semaine dernière qu'un fabricant de boîtes de vitesse allait licencier 200 personnes. Il y a des risques aussi de retour de travailleurs frontaliers qui pèsent sur le moral des ménages. On parle ici, par exemple, de la zone d'emploi de Sarreguemines. À proximité de Sarreguemines, il y a l'usine ZF à Sarrebruck, en Allemagne, qui menace de supprimer 6000 postes. Donc de nombreux frontaliers vont revenir et vont chercher un emploi en France. Donc le moral n'est pas terrible. Ça se traduit déjà par la consommation de choses toutes simples. Dans l'agroalimentaire, j'ai rencontré la semaine dernière un brasseur, une grosse brasserie en Alsace, la brasserie Météor, qui m'expliquait que la consommation de bière avait chuté parce que depuis 3-4 ans, le prix des demi avait augmenté sous l'impulsion de la montée de la qualité. Et tout d'un coup, paf, on arrive à un goulet d'étranglement et les gens se serrent la ceinture pour leurs dépenses d'alimentation.
Donc là, on constate une baisse du pouvoir d'achat global des Français. Henri, on parle du logement dans cette table ronde, justement de la place du logement dans la vie des Français, alors que ce soit pour la location ou pour un achat, un remboursement de crédit. Justement, comment évolue ce logement dans la vie des Français ?
Il y a une première chose à dire, c'est qu'on a mesuré peut-être la seule vertu de l'inflation, de la poussée d'inflation depuis quasiment 2 ans, même si ça s'agit. On a mesuré le problème de pouvoir d'achat par rapport au logement grâce à l'inflation. Il a fallu que les taux d'intérêt explosent, que cette variable soit modifiée dans l'équation. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Bon. Et puis ils ne sont pas arrivés à 10%. Certains ont dit, mais on les a connus à 8, à 10. Mais ils ont quadruplé. Partant de 1 à peu près, ils ont quadruplé et très soudainement. Et là, Stéphane a donné un chiffre, on a perdu un tiers du marché. On a perdu un tiers de nos compatriotes qui n'ont pas pu suivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équation, elle est extrêmement fragile. Et on s'est accommodé depuis 30 ans, bien pesé, de la cherté tendancielle des prix des logements. On s'est accommodé de ça. Et notamment dans les 15 dernières années, parce que les taux ont été très bas, l'accès au crédit assez aisé, les banques étaient partantes. Et alors, voilà, on s'est dit, bah, ça va finalement. En deux ans, on a perdu 30% du marché, mais on a perdu près de 60% des primo-accédants, c'est-à-dire les plus fragiles, hein, les plus jeunes, qui n'ont pas d'épargne, etc., sont sortis. C'est une véritable catastrophe. Et cette question des fondements du pouvoir d'achat, on peut mesurer son acuité chez les ménages français à un sondage qui est sorti hier, hein, commandé par vos confrères et vos consoeurs de BFM à Elab. On a interrogé les Français sur 10 items en leur disant sur quoi pensez-vous que le Premier ministre et son gouvernement vont devoir faire porter l'effort et avec une politique de rupture, c'est-à-dire changer les choses. En numéro 3 arrive le pouvoir d'achat sur 10 items, et les autres sont solides, hein, y a de l'environnement, il y a l'éducation, il y a la sécurité. On est sur le pouvoir d'achat, et bien sûr derrière le pouvoir d'achat, il y a le logement. Parce que ce qui est formidable, c'est que quand vous interrogez les Français, en fait, ils parlent de logement, mais en 7e, 8e, 15e position. Ils ne réalisent même plus que l'érosion du pouvoir d'achat, c'est un logement trop cher. Le reste à vivre, lorsqu'on a payé son logement, qu'on est accédant à la propriété dans ce pays, il est extrêmement faible. Et ça affecte la croissance du pays. Il y a quelques économistes qui ont l'audace de le dire. Le logement, combien il pèse aujourd'hui? Si vous êtes non-accédant, c'est-à-dire que vous avez remboursé votre crédit, l'INSEE nous donne les chiffres, ça pèse 7,9%, moins de 8%. Ça va, c'est digeste. Bon, mmh. Bon et donc quoi? Vous pouvez continuer à vivre. Si vous êtes accédant, il y a un banquier avec nous, déjà, on vous concède 35% de taux d'effort. Vous êtes bien au-delà. Vous payez un déménagement, vous payez un emménagement, des meubles, etc., etc. Vous êtes très souvent à 40%, et pour les plus fragiles, à 50 et 60%. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça pour vivre ensuite et faire tourner la machine économique? Donc c'est un véritable cancer. Et quand je dis qu'on s'en est accommodé, il y a des pans entiers de la politique qui ont été abandonnés, et le plus important d'entre eux, il a été cité par Julien de Normandie tout à l'heure, je trouve que c'est ce qu'il a dit de plus important, c'est l'aménagement du territoire. Il a aussi été un ministre de l'Agriculture, c'est l'aménagement du territoire. Et les Français sont en train de nous montrer, pour deux raisons, parce que la qualité de vie, elle n'est pas dans les 11 métropoles. Elle s'est affaiblie dans les 11 métropoles. C'est pas facile de vivre dans les métropoles. Les Français nous disent, les villes moyennes, ça nous plaît. On est dans l'une d'entre elles ici. Les territoires ruraux, ça nous plaît. Et pourquoi on a fait monter les prix? Parce qu'on a concentré la population, 80% des Français, dans 20% des territoires depuis 30 ans. Il faut un meilleur équilibre des territoires. Ça, c'est le remède absolument majeur. Après, il y en a d'autres, je pourrais en citer d'autres. Mais le vrai secret, il est là. La production, bien sûr.
Oui, mais ça, d'abord, ça impacte de gros changements.
Alors, c'est un grand changement, mais on voit bien que les politiques, parce qu'elles ne vont pas s'interrompre, celles-là, quelles que soient les ruptures, elles nous disent, on veut réindustrialiser notre pays. Oui. Elles nous disent, les entreprises, il n'y a pas de représentant du MEDEF ou de la CPME à ces tables rondes, mais ça pourrait. Il y a eu un patron de CCI, Fabrice Hunter. Qu'est-ce qu'ils constatent, ces corps consulaires? Ils constatent que les entreprises, elles aussi, veulent s'établir. Alors là où il y a de la place, s'il s'agit, si on est une gigafactory, il faut des hectares entiers. Alors on va à Dunkerque, par exemple, 3 gigafactories. Dans les deux ans, vont arriver 16 500 ménages. Il n'y a qu'un problème, on ne sait pas où on va les loger. Il y en a peut-être un millier qui seront déjà logés, qui sont des Dunkerquois. Les autres, ils viendront de l'étranger ou des autres régions. Main-d'œuvre très qualifiée. On ne sait pas où on va les loger. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est de se dire, pour les entreprises, pour les ménages qui ont une envie d'ailleurs, pour les étudiants qui se forment, je suis président d'école, je ne peux pas oublier cette catégorie-là, même chose, il faut quand même voir que vous avez un projet pédagogique sur deux aujourd'hui, enseignement supérieur, qui est abandonné par le jeune, c'est-à-dire il est pris dans une école, une université qui lui plaît, alors il habite Metz, il est pris à Lyon, il est pris à Toulouse, et puis il n'y va pas, parce qu'il cherche le logement, il cherche quand il est admis, donc il se met à chercher en juillet, août, septembre, octobre, il n'en trouve pas. Un seul chiffre, Bordeaux, c'est une grande place universitaire. J'ai aidé la semaine dernière, je suis fier de l'avoir fait, et je ne suis pas très fier du résultat, parce que je pense que j'ai obtenu un coup de fil. J'ai appelé une grande enseigne de l'administration de biens et de la transaction, l'un des leaders français, je ne citerai pas. C'est quelqu'un en plus qui est dans la profession que j'ai aidé, pour sa fille. 9 logements à louer dans cette enseigne, qui est l'une des 3 plus importantes de France, et qui est numéro 2 à Bordeaux. 9 logements à louer, tout type confondu, 866 demandes. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je ne peux pas en être fier. J'ai obtenu un coup de fil. Voilà. Parce que les dossiers sont à peu près tous de même qualité. On en est là. C'est-à-dire qu'on a absolument pas eu le souci de se dire où les logements vont-ils être à proximité des écoles, à proximité des entreprises. Quelles entreprises vont-elles pouvoir s'établir à tel endroit? Ça, c'est le cancer. Et je pense que les politiques à venir, c'est là-dessus qu'elles doivent mettre le paquet. Vraiment.
On va faire réagir, en l'occurrence, notre invité Jean-François Rinfret, qui est avec nous, directeur général adjoint Crédit Agricole de Lorraine. Donc, on entend forcément un mot qui claque, c'est le mot « intérêt ». Voilà, c'est le... Comment aujourd'hui la banque accompagne ses clients sur l'achat? Aujourd'hui, les taux d'intérêt explosent. Est-ce qu'on va arriver en tout cas à une stabilité ou une baisse?
On baisse un petit peu, oui.
Alors, je suis pas un expert économique, mais je vais vous donner ma vision sur ce point-là. D'abord, répondre à ce qui a été dit, qui est très juste, c'est vrai que le poids de l'immobilier dans le pouvoir d'achat des Français est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que d'abord, et nous
c'est
on le voit,
c'est le premier poste voilà,
dans l'accompagnement de nos clients, c'est que c'est un projet de vie. Et les Français rêvent encore majoritairement d'être propriétaires. Ça, c'est un point qui est important, qui explique ce poids extrêmement important. Le deuxième point aussi, c'est que dans la constitution de leur patrimoine, le patrimoine immobilier joue un rôle extrêmement important. C'est encore 62% du patrimoine des Français qui est un patrimoine immobilier. Pourquoi ? Parce que si on regarde depuis 30 ans, depuis 33 ans, ce patrimoine, il a cru de 390%, alors que les salaires ont progressé de 59 ou 60% et le PIB a progressé de 60%. Donc on voit qu'il y a toujours cet attrait et l'élément extrêmement important d'aller chercher ce bien immobilier. Alors l'impact, c'est que ça joue énormément dans le pouvoir d'achat, mais il y a des mécanismes qui permettent de limiter cette hausse. On a la chance quand même en France d'avoir d'une part un secteur bancaire qui, par rapport aux concurrents européens, prête à des niveaux de marge qui sont minimums, c'est-à-dire que l'approche des banques en France, c'est pas de se faire de la marge importante sur le crédit, c'est plus dans une approche de relation globale, et ça c'est déjà un mécanisme qui permet de limiter quand il y a des hausses de taux, et on l'a très bien vécu sur les 18 derniers mois avec une accélération très forte, un accroissement, on est passé d'un coût de la ressource, on va dire le taux BCE qui était à moins 0,50, il a atteint les 4% en 15 mois. Donc c'est, pendant cette phase-là, c'est extrêmement important de voir ça. Et il y a d'autres mécanismes de baisse qui sont importants, qui vont, en fin de compte, permettre à nos clients de maîtriser l'impact sur le pouvoir d'achat. Il y a d'une part une marge qui est assez faible. Deuxièmement, il y a des mesures qui ont été mises en place, c'est d'abord les mécaniques de taux d'usure. Et ça a joué à plein. L'année dernière, en 2023, on avait une accélération du coût de la ressource et les banques n'ont pas pu répercuter la totalité de cet accroissement du coût de la ressource, c'est-à-dire qu'elles ont prêté en rognant totalement sur la marge parce qu'elles étaient bloquées dans le prix de vente aux clients. Donc ça permet de limiter. L'autre point qui est important, c'est qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place par le régulateur. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de HCSF, ce qui fait qu'aujourd'hui, un client ne peut pas emprunter sur une durée maximum qui dépasse les 25 ans et il est en théorie, mais et en pratique, je peux le dire, totalement limité par rapport à sa charge d'endettement par rapport à ses revenus. Ça, c'est des mécanismes qui sont extrêmement importants et qui régulent. Et l'autre point qu'on peut souligner quand même qui est utile aussi, c'est que en France, 90% des prêts qui sont faits à l'habitat sont des prêts à taux fixe. Et c'est quand même super sécurisant. Quand vous vous engagez sur un projet à 25 ans, de savoir que le prêt que vous allez faire aujourd'hui à 3% par exemple,
il va durer
à 3% sur 25 ans. Alors que votre bien immobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui va augmenter en valeur. On est très loin du système américain dont on a vu les effets pervers en 2008. Donc ce mécanisme-là, il est important. Alors les taux, c'est important. Ils ont effectivement progressé. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les taux augmentent très vite, vous avez les primo-accédants qui sortent du marché. Parce que c'est aussi un choix d'opportunité. C'est-à-dire quand vous êtes locataire, vous voulez devenir propriétaire. Mais cette charge, vous allez l'avoir sur 25 ans. Est-ce que vous le faites maintenant ? Est-ce que vous différez ? Ou est-ce que même vous remettez en cause votre projet ? Et il y a 30 à 40% de projets habitat en moins qui ont été financés par les banques sur les 18 derniers mois. Donc l'impact a été très fort.
Stéphane Fritz, est-ce que ça crée un embouteillage? Forcément, on a moins d'argent, donc on va rechercher une surface plus petite. Et donc, du coup, il y a une prépondérance de surfaces aujourd'hui qui sont en pénurie. On ne vous entend pas.
Pardon, des surfaces plus petites ou forcément le pouvoir d'achat immobilier aujourd'hui a été grévé par l'augmentation des taux, on le dit, mais les salaires, par l'inflation et également la vie chère. On a parlé des énergies beaucoup plus chères aujourd'hui qui rendent tout beaucoup plus cher. Le panier moyen aujourd'hui est plus important. Donc en fait, ce qui reste pour l'immobilier, ça a forcément fait sortir un certain nombre de gens de l'assiette, des gens finançables. Donc oui, ça a créé une contraction. Après, il faut se rappeler quand même que, un, on arrive d'une augmentation des prix extrêmement forte ces dernières années, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on avait un volume de transactions, puisqu'on parle à des agents immobiliers. Je veux bien faire macro et parler du pouvoir d'achat, mais on s'adresse à des agents immobiliers. On a eu une contraction de marché extrêmement forte, mais par contre, il y avait eu une envolée en après-Covid qui était forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cinq éléments aujourd'hui qui font la transaction, c'est les mutations, les décès, les divorces, les mariages, les enterrements, c'est un peu ça. Et les naissances, pardon. Aujourd'hui, la période Covid, elle a boosté les décès. Rappelez-vous cette situation d'hôpitaux embouteillés, les divorces. On en rigole un peu, mais c'est un vrai drame pour le coup. Mais les divorces, à chaque fois, c'est une vente et deux achats derrière, ou deux locations. Donc tout ça, ça a boosté artificiellement notre marché. C'est de là où on arrive en ce moment, quand on sent un peu cette difficulté. Argent pas cher, transactions pleines balles, on faisait des plus-values. Il faut savoir que vous en parliez tout à l'heure, sur les locataires, il y a 50% des locataires qui veulent être propriétaires. 73% d'entre eux ont besoin d'un crédit. La première chose, et ça c'est une nouveauté pour le coup, avant on voulait faire des plus-values avec l'immobilier. Aujourd'hui c'est constituer un patrimoine, c'est-à-dire coffrer quoi, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui la volonté d'un achat, c'est plus de faire une énorme plus-value 7 ans ou 8 ans plus tard, ce qui était un peu le marché un peu fou que nous avions vécu tous ensemble. Aujourd'hui c'est déjà, et ça reste toujours intéressant d'acheter, même si c'est pas partout pareil, aujourd'hui la vraie volonté des Français, notamment des locataires dont on parle, c'est pouvoir constituer un patrimoine, et c'est toujours plus intéressant de capitaliser que de louer.
Et justement, vous parlez des locataires. Une étude vient de tomber, une étude signée Meilleur Taux, justement, qui montre en fonction des villes si ça coûte plus cher de rester locataire ou de devenir propriétaire. Parce que c'est pas forcément pareil partout. Est-ce que vous avez quelques chiffres?
Oui, l'étude Meilleur Taux, voilà ce qu'elle dit. Elle dit qu'à Paris, pour pouvoir rentabiliser son emprunt, enfin son achat, il faut 29 ans. Voilà. À Metz, puisqu'on est à Metz, l'année dernière il fallait 6 ans, aujourd'hui il faut 9 ans.
9 ans donc pour rentabiliser l'achat,
pour que ce soit plus intéressant d'acheter plutôt que louer. Donc oui. En clair, à Paris, vous l'avez compris, c'est pas intéressant d'acheter, dans l'absolu, si on faisait ce calcul-là. Et on a encore des zones dans lesquelles il est plus intéressant d'acheter un an et demi seulement après, donc c'est vraiment intéressant d'acheter. Je pense à Mulhouse, là où on a notre grosse agence d'ailleurs. On a une belle agence là-bas et qui cartonne en plus, qui est bien la première du réseau. Et à Mulhouse, c'est toujours intéressant aujourd'hui d'acheter. Un an et demi après, on peut aujourd'hui, c'est plus intéressant que de louer. Voilà. C'est ce que dit l'enquête.
Olivier Merguet, est-ce qu'aujourd'hui les aides sont suffisantes justement pour aider ces petits portefeuilles à l'accès?
Le gouvernement sortant, juste avant la dissolution, le gouvernement sortant de Gabriel Attal avait proposé d'augmenter les aides, tous azimuts d'ailleurs, y compris l'exonération de frais de notaire. Tout de suite, les présidents de départements dont les finances dépendent des frais de notaire, des frais de notaire indirectement en fait, les présidents de départements ont eu les poils qui se sont dressés sur les bras, disant que vont devenir nos finances à nous. C'est-à-dire si on accorde des exonérations aux primo-accédants, je crois qu'il était prévu d'exonérer les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros, dites-moi si c'est exact, les finances des départements auraient immédiatement plongé. Donc derrière, l'action sociale, l'action pour les collèges, le transport scolaire, etc., auraient été en manque de financement. Donc les aides publiques, il faut bien prendre dans la poche de l'un pour donner à l'autre. Et dès qu'on touche à une aide, on doit, dans les finances publiques, regarder où on prend.
Et quand on parle, je rebondis sur ce que vous dites, de quoi parle notre président quand il évoque un marché perfusé aux aides publiques, Henri Buzicazo?
Oui, alors le sujet, il est plié. Hein. Le président de la République a été insultant sur l'immobilier et sur des générations d'hommes publics et de femmes publiques qui l'ont précédé, qui ont fait quoi ? Je raccroche ça à mon propos et à notre propos précédent. Qui ont trouvé des antidouleurs pour que les ménages puissent continuer à trouver un logement en location, ça s'appelle l'APL, ou en accession, ça s'appelait l'APL accession. Quand il est arrivé, il l'a sucré. Bon. Pourquoi il y a eu des aides ? Parce que sans cela, les ménages ne s'en seraient pas sortis. Parce que les prix étaient trop élevés. Je rajoute un chiffre, on n'est pas loin de pays où les choses ne se passent pas pareil. Il faut en France, en moyenne, 6 années de revenus nets d'un ménage pour acheter un logement. Alors, ce n'est pas pareil à Mulhouse et à Paris, hein, c'est une moyenne. En Allemagne, c'est 3 années. Bon. Donc, ce mal, on ne s'en est pas occupé, pas davantage, M. Macron.
Donc, il y a un problème de prix.
Il y a un problème de prix, et dire que c'est perfusé, vous enlevez les perfusions, c'est comme à l'hôpital, hein. On peut les enlever, parce que ça coûte très cher, l'hôpital aussi. Hein. Vous allez voir le taux de mortalité dans les chambres d'hôpital. Bon. Ce n'est pas sérieux. Mais, quand je dis que le sujet est plié, on n'a plus d'argent. Donc je le dis ici aux professionnels qui sont là, je suis venu de Paris pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Non mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Je faisais un débat il y a 2 jours avec des députés des 3 grands blocs, des spécialistes de logement. Anaïs Le Meur n'a pas dit l'inverse. Nous n'aurons rien. Je vous le dis. Et je voudrais me tromper, et si on a un peu quelque chose, j'en serais évidemment heureux. Mais notre budget, il fait 37 milliards d'euros. Là-dedans, il y a le Pinel, les aides au logement, etc. Moi, je vous fiche mon billet qu'on va encore nous en piquer 3-4. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut miser. Il faut miser sur de l'innovation pour faire baisser les coûts de construction et le coût des terrains, voire des mesures autoritaires.
Il y a
des
promoteurs qui sont... Oui, ça veut dire des investissements énormes.
Il y a des promoteurs qui sont favorables au plafonnement du prix du foncier. Voilà, je le dis très clairement. Et c'est des libéraux. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut simplifier. Ça a été dit aussi par le ministre tout à l'heure, par Julien de Normandie. Alléger les procédures, etc. Sortir des coûts de logement à moins 15%. Ça, c'est l'objectif. J'ai le souvenir qu'il y a... Un an avant qu'il nous quitte, Jean-Philippe Ruggeri, DG de Nexity, qui était le premier promoteur de France, je lui souhaite de le rester, avait dit publiquement, il avait dit ça sur BFM, il faut que le prix des logements neufs baisse de 15%. J'en avais félicité parce qu'il faut du courage pour dire ça, mais c'est la vérité. Et dans l'ancien, enfin dans l'existant, la baisse, elle a été interrompue. Stéphane nous a donné des chiffres et est un observateur, je dirais, au jour le jour de ça. Mais objectivement, les prix ont baissé depuis 2 ans. Même assez fortement si on parle de Paris, l'endroit où on est le plus malade hein, de la cherté, et dans d'autres grandes villes. Pour moi, il faut que ça se poursuive. C'est pas un effondrement qu'il faut assister. La hausse des taux aura eu cet effet-là.
Oui, mais ça va pas durer, parce que là, la BCE a baissé ses taux pour la 2e fois la semaine dernière, donc jeudi, et on sait ce que ça implique. Quand il y a une baisse des taux, les prix remontent.
Mais c'est un risque, et le travail, on est face à des dizaines et des centaines de négociateurs, et il y a des professionnels comme Stéphane qui les fédère. Le travail du négociateur, il est microéconomique. Moi, ce que j'entends quand même aujourd'hui, quand je parle avec des négociateurs de terrain, qui n'ont pas d'arrière-pensée politique, ils vous disent, moi, quand j'arrive à conclure une transaction, c'est quand même que j'ai obtenu du propriétaire un effort, encore aujourd'hui, un effort de 2, 3, 4 points.
Donc c'est les propriétaires qui vont devoir faire des efforts.
Bien sûr, les propriétaires font de la résistance. Ils oublient le plus souvent ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'ils ont acheté il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ils font une plus-value... pas taxé si c'est la résidence principale, très confortable.
Après, c'est 8 ans, hein, la moyenne de détention d'un bien.
Oui,
donc ceux qui ont acheté il y a 8 ans, on peut comprendre qu'ils veulent le vendre au prix un peu plus fort.
Mais on peut le comprendre, simplement, la plus-value, elle s'est exercée déjà au bout de 8 ans, ou de 10 ou de 15. Mais je veux dire, quand on est propriétaire, c'est légitime, mais les négociateurs font un travail là-dessus extrêmement difficile, complexe, qu'il est plus facile de faire avec un mandat exclusif, d'ailleurs, je le signale, parce que voilà, on peut être tenté autrement de dire, moi je vais vous le vendre plus cher. Non, il y a un prix de marché.
Mais pardon, ça veut dire que je reviens sur le débat d'avant, ça veut dire qu'il faut encadrer la spéculation à ce moment-là, si je vais dans votre sens.
Ben, ce qui se passe en pratique, là quand je parle de négociation, je ne parle pas d'autorité administrative, ça je pense que ça doit s'exercer sur les terrains. Très clairement, le ministre Kasbarian, dans un projet de loi qui est tombé, hein, proposait un droit de préemption majoré pour les villes, etc., sur les terrains. Il y a des choses à faire sur les terrains. Il faut inverser la fiscalité sur la détention pour faire en sorte que les ménages les vendent plus vite et qu'autrement ils soient plus imposés. La taxation de la plus-value est un mécanisme anti-spéculatif. Il y a déjà des mécanismes anti-spéculatifs. Et puis, encore une fois, il y a négociation. Quand on veut réussir une vente, on n'a pas un an. Et donc, la baisse des prix, on le sait, est un moyen extrêmement efficace pour se rapprocher de la solvabilité. Ce n'est pas le plaisir de faire baisser le patrimoine. Les prix ont été multipliés par 16 depuis 1980 et par 5 pour les revenus. Donc, il faut se rapprocher de la solvabilité des ménages. Les banquiers donnent un coup de main, mais avec le coût de la ressource qu'ils ont. La deuxième partie du chemin, c'est le prix qui le fait, c'est tout.
Il est habité, hein. C'est passionnant. Stéphane Fritz, quand vous entendez ça, la réaction forcément de l'homme de terrain.
Pour les augmentations de prix, je vous le redis, c'est 2,8%. Évidemment, il y a une disparité sur le territoire national et Henri a raison. Il y a des grosses négociations depuis quelques années. Nous, ce qu'on fait, c'est une année versus une autre année. On ne fait pas des rétrospectives sur 5 ou 10 ans. Seulement, quand on parle de baisse de prix, on parle de baisse de prix derrière des hausses extraordinaires depuis ces 5 ou 10 dernières années. Quand on fait aujourd'hui un focus, c'est plus 2,8, ça c'est une réalité. Maintenant, on parle des professionnels de l'immobilier. Oui, c'est la nouveauté, faut bosser. C'est-à-dire qu'il faut travailler maintenant, c'est nouveau, parce qu'on vient de 5 ou 6 années où on n'avait pas encore rentré le bien dans la machine pour communiquer dessus. On avait juste le mandat, le truc était déjà vendu. Vous vous souvenez de ça pour les plus anciens, c'est il y a 4-5 ans. Donc oui, aujourd'hui, il faut convaincre des vendeurs. Oui, c'est un peu notre boulot, hein, accessoirement. C'est la raison pour laquelle on est payé 10 000 balles en moyenne, hein, quand même, hors taxe. Donc c'est pas neutre. Donc évidemment, faut travailler, évidemment qu'il faut convaincre. Évidemment qu'il y a des négociations en ce moment parce qu'il y a moins d'acheteurs. Elles sont disparates sur le territoire national. Il y en a moins sur les biens d'exception. J'ai encore des plus 12% à Antibes. On a encore sur la côte atlantique, de la même manière, quand on est proche de la mer ou proche de la montagne ou avec une belle vue dans Paris, des augmentations de prix à deux chiffres. Et c'est pas la réalité quand vous êtes à Nevers, à Laval ou à Guéret, et j'aime beaucoup ces villes, mais c'est moins vrai parce qu'on a moins envie d'y habiter. Sur ce que disait tout à l'heure Henri, ce qui est intéressant, on dit on veut aménager le territoire. C'est quelque chose de long terme, quoi. Enfin, quand ils vont s'y mettre, il va se passer du temps, quoi. Attendre des politiques, je te rejoins, on n'a jamais rien attendu des politiques et c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on fait déjà notre job. En revanche, là où je m'inscris un peu en faux, c'est qu'il nous faut aujourd'hui, à court terme, assez rapidement, libérer la demande. Et c'est le Pinel. Pourtant, moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'il faut pas donner des aides dans l'ancien parce que ça se retrouve toujours dans le prix. Donc, mais là, je me dis que de l'autre côté, comme il n'y a plus de moyens à l'État, et c'est un peu ce qu'ils disent tous, pour le coup, ils sont unanimes, on peut les croire, il va falloir trouver des moyens. Et les moyens, c'est inciter les gens à venir investir. Parce que l'investissement du particulier, il est extrêmement fort et il booste la dynamique. Mais si vous lui donnez pas du Pinel, bah, il y viendra pas. Déjà, donc c'est ça le sujet. Donc ça, c'est pour du court terme. Et sur du long terme, je te rejoins, avec une petite différence, les gens, ils ont pas envie d'habiter là où il n'y a pas de centre stratégique qui soit économique, les hôpitaux, culturels, là où il y a les écoles, là où il y a les infrastructures. Les
gens, ils habitent pas. Un environnement à retravailler.
Donc, il y a un vrai dogme à construire, peut-être un peu plus vertical, pourquoi pas. Mais là où ça se passe, et là, pour le coup, on aura du moyen terme et pas du long terme. L'aménagement du territoire et partout sur le territoire, en ce compris dans le plateau des 1000 vaches en centre-France, je suis d'accord. Mais enfin, on sera mort, quoi.
Alors, justement, vous avez dit libérer la demande. On va demander à Jean-François Rinfret, le prêt, le crédit immobilier, en fait partie. Vous représentez les banques. C'est vrai qu'il y a eu vraiment les robinets du crédit qui ont été coupés. Hein, vous me dites non ?
Non, pas du tout.
En 2022, 2023, c'est ce qui s'est passé.
C'est une question d'interprétation, c'est pas du tout la mienne. Un chiffre qui est important, je vous dis d'abord tout à l'heure. C'est le projet de vie de chaque ménage. Et deuxièmement, si vous prenez un bilan de banque traditionnel, 60% du bilan à l'actif des banques, c'est du crédit immobilier. Donc c'est un moteur extrêmement important. Troisième point qui est important, quand vous travaillez avec des clients particuliers, vous avez une occasion unique de tisser une relation sur une durée de 20-25 ans avec un client, c'est au moment de son projet Habitat. Donc,
quand ils ont un bon profil.
Mais ils ont tout. Mais enfin, Banque Universaliste, par exemple, comme le Crédit Agricole, on a doublé le PTZ pour essayer de faciliter, pour éviter que les primo-accédants sortent du marché. Donc, pour vous dire qu'on s'intéresse à tous les clients. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un projet. Le prêt Habitat est un produit tellement concurrentiel, tellement important dans la construction de la rentabilité de la banque, que de toute façon, les banquiers, on se bat sur la place pour récupérer le maximum de dossiers de Crédit Habitat.
Parce que c'est des nouveaux clients, en fait.
Parce que c'est des nouveaux clients, et surtout, on va les garder pendant 20-25 ans. Donc ce sujet-là, de l'effort que font les banques pour faciliter la demande, il est indéniable, indiscutable. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pareil, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, de toute façon, à chaque fois qu'il y aura une baisse, les banques, enfin une baisse du coût de la ressource, feront leur maximum pour la répercuter à leurs clients, parce que c'est pour les banques une question de survie dans le paysage concurrentiel. C'est incontournable. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les emprunteurs. C'est donc pour tout un chacun ici. À chaque fois, les banques françaises, en tout cas, et ça je peux vous le dire, enfin, sur les 15 dernières années, les 20 dernières années, elles ont joué à chaque fois à plein pour faciliter l'accès à la demande pour tous les emprunteurs. Il n'y a pas de robinets qui ont été fermés pour
pourtant,
des critères.
C'est les retours qu'on a eu. C'est quand même les retours qu'on a eu.
Ben, moi, je suis au quotidien avec on a 450 000 clients, j'ai 1400 collaborateurs sur le terrain et les remontées, ce n'est pas du tout celles-ci. À aucun moment, on a des messages de fermés. Après, on doit s'adapter à cette réglementation que je vous expliquais tout à l'heure, le HCSF, on doit s'adapter à cette règle qui est imperturbable, qui est économique. Est-ce que vous avez la capacité à payer votre emprunt ? Et là, c'est aussi un aspect qu'on peut évoquer, c'est qu'on a cette responsabilité de s'engager sur la durée. Quand on prête, on parle, quand vous avez en face de vous un couple, vous l'avez évoqué tout à l'heure très justement, qui vient s'endetter sur 25 ans pour acheter une maison, on parlait de pouvoir d'achat, ok, on va figer le taux sur 25 ans, mais c'est quoi notre action sur le produit ? On ne peut pas, sur ces produits, ces revenus. Donc, or, il y a des accidents de la vie qui vont être multiples, or, il y a des besoins qui vont évoluer pendant 25 ans. La responsabilité, elle est forte, parce que cette charge de 35% du revenu, elle va durer sur 25 ans.
Pour rebondir sur justement cette analyse du risque, hein, qui doit être extrêmement précise pour les banques, forcément, d'abord pour les ménages et aussi pour les banques, pour que chacun puisse s'y retrouver, est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer par l'intelligence artificielle pour affiner justement cette analyse, aller plus loin, et est-ce que ça peut... C'est quelque chose qui peut être envisagé.
On utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, mais c'est basique. Hein. C'est les revenus. Généralement, ils sont massivement salariaux et les charges. Et là, même en regardant la consultation du compte, on les a facilement. C'est extrêmement facile. C'est super facile.
Vous pouvez rentrer le tissu industriel. Vous pourrez rentrer après pas mal de paramètres d'anticipation que nous, humains, n'avons peut-être pas non plus.
Non, après, je vous disais, c'est tellement concurrentiel que votre client, quand il veut acheter un bien immobilier, que ce soit à Hayange ou à Laval, où on le disait tout à l'heure, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, de toute façon, vous avez 5 partenaires bancaires en face de vous et vous faites votre possible pour embarquer le dossier.
Une petite réaction peut-être, Henri, sur ce qui vient de se dire, justement, sur le positionnement des banques.
Bon, déjà... non, mais je veux le dire, ce n'est pas pour faire plaisir à notre invité, enfin à l'invité de Cédric Lavaux, mais on a pris le meilleur élève de la classe. Donc c'est... Non, mais... si vous voulez, c'est...
Merci pour le Crédit Agricole.
Bon, le Crédit Agricole, c'est le premier prêteur immobilier de France. Hein, vous avez presque 33% de parts de marché. Voilà. Donc déjà, ça prouve votre engagement. Sur tous les territoires, vous êtes un acteur de l'aménagement du territoire. Très clairement, et bien de la réflexion sur ces sujets. Moi, je suis dans un think tank sur les ruralités. Et bien, il y a l'un des dirigeants de votre maison. Voilà, donc je sais l'intelligence qu'il y a. Et effectivement, vous avez sans doute été les plus attentifs à ne pas couper de la primo-accession les ménages français. Et après, il y a les critères du HCSF. Et là, je voudrais quand même dire aussi que ces critères, on les a pourfendus. Mais sérieusement, quand vous êtes à 35%, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entrée du problème, à 35%, est-ce qu'il faut vous laisser entrer à 40, 45 et 50 ? Unitairement, pourquoi pas ? Parce que la question du reste à vivre, évidemment, elle est importante. Et que si un ménage gagne 20 000 euros par mois, ouais, bon, ça existe, eh bien, allez, s'il en met 40% dans le logement, il va encore pouvoir bien vivre.
C'était une proposition de loi, d'ailleurs, de Lionel Causse.
De Lionel Causse, bon. Donc, on pourrait imaginer assouplir un peu. Et il y a eu, d'ailleurs, une poche, hein, 20% de la production, sur laquelle les banques peuvent discrétionnairement se dire, bon, ben là, on a un ménage, allez, on y va, on se met à 37, 38%. Pas à 50, mais enfin, 35%, le problème, il est dans le prix. Et alimenter le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire dire, mais attendez, on va prêter peu importe, à 70%, si le ménage le veut, après tout, on va pas le contrarier. Nous, bon, on gérera le risque s'il y en a un, mais les prix, et ce que disait Stéphane est tout à fait juste, toute aide, mais c'est vrai aussi de l'accès au logement, est récupérée par le producteur et par les prix. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, tout simplement. Moi, je ne suis pas candidat à une augmentation encore des prix dans les proportions qu'on a eues depuis 15 ans. Donc, de ce point de vue-là, les critères... Sont... Il y a un point sur lequel les critères, ça rejoint aussi le propos de Stéphane, il faut qu'on ait plus d'investisseurs. Eux aussi ont été divisés par deux, c'est-à-dire les ménages qui achètent un logement pour louer. Quand on ne peut pas acheter, et à Paris, non, on ne peut pas acheter, l'essentiel des ménages qui y travaillent, on loue. Bon. 60% des copropriétaires dans les grandes villes, ce sont des bailleurs. C'est-à-dire que les locataires font la majorité des habitants des grandes villes. Il faut qu'on ait une offre locative, et même dans les villes moyennes. Ceux-là aussi, ils ont été divisés par deux parce que les critères du HCSF les ont pénalisés. Et là, je trouve que ce n'est pas admissible. Quand on sait qu'on va avoir un revenu complémentaire avec le loyer, il faut que ce soit mis dans l'équation. Et ce
oui, parce que
ce
n'est pas mis dans l'équation. Enfin, ce n'est pas mis de la même manière.
Stricto sensu, après les banques, sur l'enveloppe qu'elles ont, peuvent dire, bon, monsieur Untel, c'est un client fidèle, etc. C'est souvent le cas des investisseurs. Mais autrement... On dit, monsieur, quels sont vos revenus? On dit, je vais avoir un loyer en plus, puisque je vais investir. Ah, attendez, ça c'est un autre sujet. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, on a perdu 50% des investisseurs dans l'ancien, comme dans le neuf. Alors, le neuf, c'est la fin
du Pinel. C'est moins 40% dans le neuf, je crois.
Non. Oui, c'est ça, on a mis une forte proportion, mais là c'est le Pinel qui est en cause, la fin de la défiscalisation. Dans l'ancien, ce n'est pas la fin de la défiscalisation, il n'y en a pas, il y a le statut de déficit foncier, c'est le problème de l'accès au crédit chez les banquiers, même au Crédit Agricole.
Sur la transmission, l'héritage, par exemple Stéphane Fritz, aujourd'hui, la transmission d'un bien à ses enfants fiscalisés, là aussi, il faudrait peut-être éviter ou en tout cas alléger cette fiscalité.
Non. Okay. Bon, aujourd'hui, la transmission... Non, enfin, je ne suis pas favorable, moi. Après, je peux entendre qu'on y soit favorable. Il y a un moment donné, la redistribution, elle fait du bien aussi. Sur les conditions
d'achat... Mais aussi,
c'est
l'accès aussi au logement pour une jeune génération.
Pour les jeunes générations, la transmission, qu'elle soit fiscalisée, je trouve ça normal. Il n'y a pas de... C'est pas le patrimoine. Il y a un moment donné, c'est fait graduellement, déjà. Quand vous avez beaucoup, beaucoup, vous donnez beaucoup. Et quand vous avez un peu, vous donnez un peu. Donc, je trouve ça pas déconnant, quoi. C'est très de gauche, je suis désolé, mais je trouve ça pas déconnant.
En revanche, ça risque de continuer, en tout cas, avec le nouveau Premier ministre.
C'est pas l'Axas Loge. Aujourd'hui, quand on veut donner de l'argent, là, aujourd'hui, on parle d'aide. Et on dit non, on ne peut pas aider, donc on ne peut pas défiscaliser, mais c'est sur un projet qui va avoir lieu, qui n'aura pas lieu si vous ne l'aidez pas. Donc, moi, je suis un chef d'entreprise, je mets du pognon là où je veux en récupérer. Et donc, on demande à l'État, puisque vous n'avez pas d'argent, ben, au moins défiscaliser, et ça va faire tourner la machine. Un logement acheté ou un logement construit, parce qu'on a aidé l'investisseur, et ça va aider aussi à la location. Donc, cette machine-là, ils l'ont arrêtée dernièrement. Ils l'ont maltraité, ils l'ont arrêté. On a eu une vraie contraction de marché. Ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est que l'État, il n'y a plus d'oseille qui rentre. Hein. C'est ça le sujet. Hein. Avec la TVA, il lui a manqué à Madame Hidalgo 500 millions, ne serait-ce qu'en frais de...
Alors, on a perdu 15 milliards l'an dernier en droits de mutation à titre personnel qui ne sont pas rentrés. Moins 5 milliards en droits de mutation, moins 6 milliards en TVA, et puis des accousquis, il y a d'autres taxes, hein, on ne va pas les énumérer. On a perdu 15 milliards l'an dernier, ça tombe bien, c'est la somme que va devoir chercher le futur ministre de l'économie, on dit même qu'il va devoir en trouver 25. Mais moi j'en ai trouvé 15 déjà, nous en avons collectivement trouvé 15 si on relance la machine.
Si vous deviez, chacun à votre tour, le gouvernement va être nommé... rapidement, en tout cas on espère, si par exemple vous deviez demander une mesure immédiate dans le cadre du pouvoir d'achat, ce serait quoi?
Peut-être le plafonnement des loyers dans les grandes villes. Ça a été testé sur des agglomérations comme Lille avec des résultats qui étaient mitigés, mais poursuivre dans ce sens-là, je ne sais pas ce qu'en pensent les agents immobiliers, mais moi je trouve pour le pouvoir d'achat, plafonner les loyers dans les villes, c'est pas mal.
Non, alors là, vous n'allez pas vous faire que des amis.
Non, c'est pas ça.
C'est ça parce que je suis pas de la profession.
Non, c'est pas qu'on va se faire. On va être d'accord sur le sujet. Le fondement même de cette idée-là, il est bienveillant. Il est plutôt bienveillant. Mais ça a un effet contraire. C'est qu'une primo riche. Tout à l'heure, il l'a très bien dit, Henri. Quand vous avez un logement à la location et vous avez 90 candidats, vous croyez que le bailleur, il va prendre quel candidat? Celui qui a les parents qui prennent 15 000 balles par mois ou le gars qui arrive des cités? Donc en fait, à Paris, l'encadrement des loyers, ça sert à rien si à faire en sorte que celui qui a de toute façon l'argent et qui peut payer, bah, va payer moins cher. Donc ça n'a pas de sens. C'est aujourd'hui, il faut laisser la dynamique se faire.
Merci beaucoup Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet Immobilier. Merci beaucoup Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'IMSI. Vous avez, merci beaucoup Olivier Mirguet, journaliste à la Tribune. Et merci beaucoup Jean-François Rinfret, qui est directeur général adjoint Crédit Agricole de Lorraine. Vous pouvez les applaudir, merci beaucoup.
Les Assises de l'Immobilier de Metz 2024 sur Radio Immo.